Les glaciers et calottes glaciaires sont un rouage essentiel de l'environnement terrestre qui influence aussi bien le climat, les courants océaniques, le niveau des océans que la géodynamique terrestre. Dater l'apparition des calottes glaciaires à la surface terrestre et comprendre leur évolution représente ainsi un des défis majeurs des sciences de la Terre et du climat. Nous connaissons aujourd'hui une Terre partiellement recouverte de glace, notamment au niveau des pôles mais pas seulement. Ainsi, le territoire du Groenland est d'un intérêt crucial car il est recouvert à 80% de glace.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Une équipe de chercheurs du laboratoire Géosciences Rennes, l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, un partenariat du CNRS et de l'Université Rennes 1, et en collaboration avec des chercheurs anglais, a réussi à dater son apparition autour de 30 millions d'années à partir de données thermochronologiques et de l'analyse morphologique du paysage. Philippe Ster, enseignant-chercheur en géomorphologie au laboratoire Géosciences Rennes, nous révèle les problématiques de datation des calottes glaciaires.
Alors on pourrait se servir par exemple de l'âge de la glace pour dater les calottes, sauf qu'en fait la glace est continuellement renouvelée dans un glacier.
Toujours glace.
Et la glace actuelle en fait est peu ancienne par rapport à l'âge réel de la calotte. C'est une glace souvent qui s'est formée il y a peut-être quelques millions d'années, alors que la calotte en fait elle est plus ancienne à plusieurs dizaines de millions d'années. Donc en fait la glace n'est pas un indicateur de l'âge d'initiation, ou de mise en place des glaciers ou des calottes glaciaires. Donc on a besoin de passer par d'autres indicateurs ou d'autres marqueurs pour dater les calottes glaciaires ou les glaciers. Donc les glaciers, en fait, c'est de la glace qui bouge en fait en direction de la pente souvent la plus forte. Et cette glace, en fait, a le potentiel d'éroder les paysages, c'est-à-dire de transporter et d'enlever des roches depuis les sommets, en fait, vers la plaine et vers les zones plus basses.
D'autres techniques permettent de dater l'époque d'une calotte glaciaire, comme l'érosion ou encore la thermochronologie, qui consiste à déduire la vitesse à laquelle les roches se sont refroidies lorsqu'elles sont remontées à la surface de la Terre.
Cette érosion, en fait, elle laisse des traces qu'on peut essayer de dater. Par exemple, quand on érode la surface de la Terre, on rapproche en quelque sorte des roches qui étaient avant enfouies assez profondément, on les rapproche vers la surface. C'est juste que la différence d'élévation entre la surface et ces roches qui étaient enfouies devient de plus en plus faible, plus on érode par exemple la base d'un glacier. Or, on a des techniques qu'on appelle notamment des techniques de thermochronologie qui permettent en fait de dater le passage de certaines roches à travers différentes températures. Par exemple, on a des systèmes qui permettent de dater le passage à une température de 120 degrés environ.
C'est très chaud, non ?
Cette roche, on sait, le chronomètre en fait se déclenche au moment où la roche va passer à travers cette température de 120 degrés. Et quand on va la retrouver à la surface, du fait de l'érosion, on saura qu'elle est actuellement à la surface. Et donc, en fait, en datant l'âge où elle a passé cette température de 120 degrés et en sachant à quelle époque on est actuellement, et en comparant ces deux dates, on a une différence de temps. Et cette différence de temps, on peut la comparer à la profondeur à laquelle était cette roche quand elle a passé la température de 120 degrés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la température dans la Terre augmente progressivement avec la profondeur. Il fait beaucoup plus chaud au centre de la Terre qu'à la surface de la Terre. Et ce qu'on appelle ce gradient géothermique est environ de 30 degrés par kilomètre quand on est à proximité de la surface. Donc par exemple, pour passer 120 degrés, on sait qu'on sera à 4 fois 30, donc ça veut dire à 4 kilomètres de profondeur. Et donc on sait qu'on a eu 4 km par exemple en 30 millions d'années, et donc ça nous dit, voilà, bah, cette roche a effectué ce trajet du fait de l'érosion pendant ces 30 millions d'années par exemple. Tell me, river man, will you kindly carry me across before I go off the deep and where only coins are tossed. I'm from the evergreen side where everyone's all the same. You see, I'm not who I once was, for that they say I'm to blame.
Oh,
in store for me? Will I sink like a traitor or float into the North Sea? Will there be an imitator? Will he have mercy on me? For the trouble I cause when I drown in history.
Voire 45 millions d'années. L'âge de la calotte glaciaire du Groenland demeure sujette à débat.
Justement, donc il y a une grande diversité au niveau des dates de mise en place de la calotte du Groenland à cause du manque justement d'indicateurs fiables de cette mise en, enfin de cette apparition. Par exemple, jusque-là, en fait, la date qui était la plus consensuelle, et qui tombe bien, hein, qui était une date à environ 34 millions d'années, et une date qui provient de débris de l'érosion glaciaire qui ont été retrouvés. Donc c'est des tout petits grains en fait de sable, hein, qui ont été érodés, et en fait ils ont la caractéristique d'avoir une forme qui nous indique une érosion glaciaire. Et ces grains ont été retrouvés en fait dans une carotte sédimentaire qui a été forée dans l'océan au large du Groenland, à 300 km des côtes. Et donc ils ont été retrouvés dans des sédiments qui ont un âge de 34 millions d'années. Mais c'est quelque chose de très indirect comme indicateur, parce qu'en fait ces grains, on pense qu'ils viennent du Groenland, mais on n'a pas une certitude sur leur origine. Donc il y a toujours un doute qui porte sur l'origine, la localisation de ces grains. Après, il y a eu d'autres, et justement cette incertitude, elle se retrouve parce que, par exemple, une date à 45 millions avait été proposée sur le même genre d'indicateur. Donc ça laisse une marge d'incertitude quant à la mise en place, quant à l'âge de la mise en place de la calotte du Groenland. L'intérêt de notre étude d'utiliser justement ces systèmes thermochronologiques est qu'en fait on s'intéresse directement à l'impact de la calotte glaciaire sur le paysage in situ du Groenland. On ne va pas regarder par exemple des sédiments qui ont été transportés et qui viennent potentiellement du Groenland. On regarde directement le paysage du Groenland, donc il n'y a pas d'incertitude sur la localisation de cette érosion et donc sur le fait que ce soit les glaciers qui aient produit cette érosion.
En cette époque de crise climatique, comprendre l'évolution des calottes glaciaires dans le passé, c'est aussi prendre du recul sur l'évolution actuelle de notre propre climat.
Les calottes glaciaires, en fait, sont à la fois des témoins du climat. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate bien aujourd'hui. On a un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique induit, en fait, une fonte en partie, notamment de la périphérie des calottes, et notamment de la calotte du Groenland. Donc c'est des témoins du climat, et en même temps les calottes influencent le système atmosphérique et le système océanique. Et donc en fait les autres constitutions qu'on a du climat au cours du temps nous donnent aussi une indication sur la possibilité d'avoir des calottes à certaines époques du passé. Et donc on sait que certaines conditions climatiques ne sont pas permises en parallèle de la présence de calottes, par exemple, au pôle, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Et c'est intéressant justement de se poser cette question de à quelle température, en fait, en quelque sorte, s'est mise en place cette calotte du Groenland. Et en fait, il y a 30 et quelques millions d'années, la température de la Terre était beaucoup plus chaude qu'actuellement. Depuis, en fait, 50 millions d'années, la température de la Terre a décru d'environ une dizaine de degrés. Et donc quand elle s'est mise en place il y a à peu près 34 millions d'années ou 30 millions d'années, la température au niveau du Groenland était probablement de quelques degrés, probablement autour de 8 degrés de plus qu'à l'actuel. Donc le climat était déjà beaucoup plus chaud, elle s'est quand même mise en place à ce moment-là. Avant ces 8 degrés, quand il faisait encore plus chaud, on n'avait pas de calotte sur le pôle Nord, ni au pôle Sud d'ailleurs. Et c'est justement le refroidissement qui a permis la mise en place de la calotte. Après, c'est aussi d'autres problèmes. On sait que les continents se déplacent du fait de la tectonique des plaques. Et c'est aussi une question de configuration des continents, de position par rapport justement à l'équateur et par rapport au pôle, qui va permettre de mettre en place des glaciers ou non. Et c'est aussi des histoires de paléotopographie. Il faut avoir une certaine élévation, par exemple, pour être capable de développer des calottes glaciaires.
Mais quand cette étude trouve-t-elle son point de départ ?
Alors, moi, je suis arrivé dans ce projet un peu tardivement. J'ai des collègues, en fait, qui, depuis une dizaine d'années, en fait, ont commencé des études sur le Groenland. À la base, ils n'étaient pas forcément intéressés par la calotte en tant que telle, ils étaient plus intéressés, en fait, sur l'histoire, justement, thermochronologique du Groenland. On ne savait pas qu'on déboucherait sur cet âge à 30 millions d'années qui nous indiquerait cette calotte glaciaire. Et donc, il y a eu plusieurs expéditions de terrain qui ont été réalisées par mes collègues pour aller prélever justement des échantillons le long de différents fjords, en fait, à l'est du Groenland. Et ces échantillons ont été d'abord traités en laboratoire, après ils ont été interprétés grâce à des logiciels. Et c'est finalement assez récemment, en compilant en quelque sorte cet ensemble de bases de données, qu'on a pu détecter ces signaux indiquant la mise en place de la calotte du Groenland. Et donc juste pour préciser, le papier qui a permis de mettre en avant cette découverte-là, c'est un papier qu'a écrit un ancien étudiant qui s'appelle Thomas Bernard et qui commence justement une nouvelle thèse à Édimbourg. Donc je lui souhaite beaucoup de bonheur dans ses recherches.
Et comme la science est plurielle, les avis le sont tout aussi. La multiplication des recherches permet alors la confrontation des avis.
Il y a aussi des débats qui portent par exemple sur quelle était la topographie du Groenland. Certains auteurs par exemple proposent que le Groenland était complètement immergé il y a 30 millions d'années. Donc ce scénario-là est complètement incompatible avec la présence d'une calotte glaciaire. Donc notre résultat montre aussi que ce scénario d'avoir un Groenland complètement immergé est absolument impossible avec la datation qu'on a. Et donc on montre même qu'on a besoin d'avoir une certaine topographie pour pouvoir générer cette calotte. Et ces auteurs qui proposaient justement l'immersion, un Groenland immergé à 30 millions d'années, proposaient en simultané ou en parallèle que le Groenland en fait avait subi une phase de surrection qui a permis de réélever les roches du Groenland il y a environ 10 millions d'années, 10 à 15 millions d'années, et que c'est cette surrection qui avait déclenché la mise en place des glaciers et de la calotte du Groenland. Donc nous, on remet complètement en cause ce scénario-là ou cette hypothèse-là à travers cette datation qui est absolument incompatible avec ce scénario.
Face à différents résultats concernant la datation de l'âge de la calotte glaciaire du Groenland, comment négocie-t-on avec ces divergences théoriques ?
On négocie pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant en science, c'est que chacun est libre de proposer sa théorie si elle est étayée par des arguments. Donc notre théorie à nous est étayée par des arguments. Et donc les auteurs qui proposent d'autres scénarios vont devoir prendre en compte cet argument-là dans les scénarios qu'ils vont refaire. Donc le scénario, par exemple, qui propose... que le Groenland était immergé à 30 millions d'années, va devoir être remis en cause par leur auteur. Eux peuvent essayer de prouver, par exemple, que notre analyse ou que nos données ou que notre raisonnement est faux. Donc ça arrive, hein, que des fois des chercheurs se trompent ou que des chercheurs ont manqué certains arguments. Donc cela peut arriver. Donc là, il faudra voir si justement s'ils arrivent à mettre en défaut notre explication. Donc ça, c'est le futur qui nous le dira.
La thermochronologie est une technique qui nécessite certaines conditions pour être employée.
Alors en fait, on peut appliquer ce système à n'importe quel contexte. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir une érosion importante. Et l'érosion, en fait, le premier agent dans la plupart des systèmes, qu'ils soient glaciaires ou fluviatiles, le premier agent de l'érosion, c'est la pente. Il faut avoir une pente topographique. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, c'est la gravité, l'attraction de gravitaire, en fait, qui entraîne l'érosion, parce que c'est elle qui va stimuler l'écoulement des glaciers, c'est elle qui va stimuler... l'écoulement dans les rivières, et c'est cet écoulement en glaciaire ou d'eau qui génère en fait l'érosion. Et donc pour avoir un système thermochronologique qui va enregistrer une érosion, il faut avoir de l'érosion de manière significative, et donc il faut généralement avoir des pentes de manière assez conséquente.
On peut se demander si les changements climatiques récents influent-ils justement sur ces études.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'actuellement, les surfaces continentales actuelles, en fait, sont effectivement soumises à des changements très rapides. C'est-à-dire que ce réchauffement climatique qu'on observe actuellement, on n'a pas de traces dans le passé d'un réchauffement aussi brutal des températures. Et donc, ce réchauffement des températures a beaucoup d'implications, que ce soit, par exemple, dans certaines régions, sur la fréquence des événements extrêmes, comme les typhons à Taïwan ou à d'autres endroits. Ça a aussi une incidence sur les systèmes glaciaires, en les faisant fondre en certains endroits. Et donc, ça change, ça bouleverse complètement l'organisation du paysage et les taux d'érosion qui vont en découler. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est que actuellement, on se sert de marqueurs humains, enfin d'objets humains, ou de marqueurs humains pour, par exemple, dater certains événements ou certaines unités lithologiques. Par exemple, j'avais un collègue qui travaillait dans les étangs à côté de Montpellier, notamment l'étang de Thau, où il était capable de dater certains sédiments à travers les taux de césium, qui sont en fait très sensibles justement aux explosions nucléaires. Et donc le taux de césium a augmenté assez fortement dans les années 60 à cause de tous les tests nucléaires qui ont été faits, et ensuite a décru. Et donc en fait le taux de césium qui est observé dans les sédiments est un indicateur en fait de la date auquel ces sédiments se sont déposés, par exemple au fond de l'étang de Thau. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser par exemple certains déchets d'origine plastique ou autre qu'on va retrouver dans les sédiments pour dater aussi par exemple ces sédiments. Donc c'est des indicateurs effectivement d'un âge récent en tous les cas, ce qui est plutôt inquiétant. Hein.
30 millions d'années, c'est donc l'âge de la calotte glaciaire du Groenland, qui réussit à maintenir sa présence jusqu'ici, mais pour encore combien de temps ? There's something I didn't get, and there's something I missed. Was it something I didn't say, or was it something I did? When I look into my precious mirror, well, it only shows my darkest features. I try to get a grip of the old me, but you take it away when you're on the scene, and you make it all wrong. You make it all right the minute you're gone, the minute you're back, and you make it all wrong. You make it all right the minute you're gone, the minute you're back. And now it's been a while since we talked, that doesn't erase feelings. Ooh, and since my pride and for a walk, I don't answer to nothing. And there's a thousand roles I could have played, and there's a thousand words I could have said, and there's a thousand rules that I never knew, and there's a thousand fools that could be you.
making the best of it all. Tonight we're immune. Say we're bulletproof. In the white heart we bleed. Doesn't mean that I want to
C'était la première du Labomatique de cette saison. Nous remercions chaleureusement Philippe Sterre pour son accueil et ses explications. Le Labomatique est également disponible en réécoute sur www.c-lab.fr. On se quitte sur une citation de Henry Jackson Brown qui disait « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours non pas par la force, mais par la persévérance. » À bientôt.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Science.